Voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'Europe enquête d'union sur la gestion de la crise migratoire. La question envenime les relations entre les 28 qui se retrouvent à Bruxelles à partir d'aujourd'hui. L'Italie ferme ses portes aux navires humanitaires qui transportent des migrants. Rome demande davantage de solidarité dans la répartition des migrants en Europe. L'Europe centrale et de l'Est refusent. Emmanuel Macron, partisan de certains changements, peut-il faire entendre sa voix ? Analyse dans un instant.
Et puis, ultime jour de grève unitaire à la SNCF après 3 mois de mobilisation par épisode contre la réforme ferroviaire. À l'heure du bilan, les syndicats comptent les points mais divergent sur la suite. FO et la CGT se rejoignent. En revanche, pour une mobilisation interprofessionnelle aujourd'hui contre la politique du gouvernement.
Quand une ville moyenne se rêve en Davos, Deschamps, Châlons en Champagne lance un forum international et un centre dédié à la promotion de l'agriculture dans le monde. Une cause défendable à l'heure de la mondialisation, c'est ce que nous dira Jean-Marc Chardon à la fin de ce journal dans son billet économique.
Et puis dans une quinzaine de minutes, la question du jour, Coupe du monde de foot, et s'il fallait mal jouer pour l'emporter, eh bien on posera la question à Gilles Juan, journaliste pour la revue et le magazine en ligne Les Cahiers du foot.
Avec l'Aquarius, il avait illustré les tensions politiques en Europe sur la question migratoire. Le navire humanitaire Lifeline et ses 233 migrants à bord sont arrivés hier en fin d'après-midi dans le port de La Valette à Malte après une semaine d'attente en Méditerranée. L'Italie et son nouveau ministre de l'Intérieur, issu de l'extrême droite, avaient refusé de les accueillir et le chef du gouvernement italien, le populiste Giuseppe Conte, va proposer aujourd'hui, lors d'un sommet européen de 2 jours à Bruxelles, plusieurs propositions pour renforcer les frontières extérieures de l'Union et mettre en place une véritable solidarité en Europe dans la répartition des demandeurs d'asile, Mathilde Imberti.
Giuseppe Conte arrive à Bruxelles avec 10 propositions. Hors d'Europe, l'ouverture de centres d'identification des demandeurs d'asile aux frontières extérieures de la Libye. En Europe, la reconnaissance des côtes italiennes comme étant des côtes européennes, donc une gestion commune des migrants dès leur arrivée.
Il faut dépasser le règlement de Dublin, pas seulement le réformer à petites touches. Il est totalement inadapté à la gestion des flux migratoires, ça ne fait aucun doute.
Sur la question des sauvetages en mer, Rome exige une co-responsabilité des États européens et pourrait bloquer les conclusions du Conseil si ce point n'y est pas inscrit, selon des sources bruxelloises citées par les médias italiens. L'Italie hausse le ton et ferme ses ports aux ONG, mais sur le fond et à long terme, elle a beaucoup à perdre, estime Nathalie Tocci, spécialiste des relations européennes à l'Institut des Affaires internationales de Rome.
C'est impossible d'ériger des murs en Méditerranée. Il y aura toujours des débarquements de migrants. Le risque que court l'Italie, c'est de se transformer en vase clos. Le nœud du problème, c'est que si on ne parvient pas à un accord sur la répartition des migrants et une politique migratoire commune, eh bien ce sera la fin de Schengen.
Nous sommes à un tournant, commente Giuseppe Conte qui aborde son premier Conseil européen aujourd'hui.
Mathilde Imberti à Rome pour France Culture. L'Italie qui a vu débarquer quelques 700 000 migrants sur ses côtes donc depuis 2013. L'Italie qui demande à ses 27 partenaires européens de ne pas faire peser la seule responsabilité de l'accueil sur les pays d'arrivée et d'enregistrement des migrants selon le fameux règlement de Dublin. Mais les pays d'Europe centrale et de l'Est, Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie, réunis au sein du groupe de Visegrad, ne veulent pas en entendre parler. Ils ont déjà réussi ces dernières années à enterrer des projets d'Angela Merkel, notamment sur des quotas de répartition des réfugiés dans l'Union. La chancelière allemande affaiblit comme jamais avant ce sommet européen d'aujourd'hui et de demain à Bruxelles, crucial également pour son avenir sur le plan intérieur. À l'aile droite de sa fragile coalition gouvernementale, le ministre allemand de l'Intérieur, issu du parti bavarois CSU, a lancé un ultimatum à Angela Merkel. La semaine prochaine, il fermera les frontières de l'Allemagne aux migrants déjà enregistrés dans un autre pays de l'UE si la chancelière n'obtient pas d'ici demain des mesures équivalentes au sommet de Bruxelles. Ce ministre de l'Intérieur menace également de créer un axe anti-immigration illégale avec l'Italie et l'Autriche. L'Autriche qui prend d'ailleurs la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne pour 6 mois à partir de dimanche. Vienne, gouvernée par une coalition droite extrême droite compte bien faire entendre sa voix sur la question migratoire. Et dans cette Europe désunie, que peut faire Emmanuel Macron ? Écoutez l'analyse de Marie-Pierre Véraud.
Pour tenter d'avancer malgré les clivages, Paris entend promouvoir trois axes. L'action extérieure, en amont, dans les pays d'origine et de transit, en Afrique essentiellement, pour décourager les départs. La protection des frontières de l'Union ensuite, avec le renforcement des moyens de Frontex et la création de centres fermés dans les pays d'arrivée, essentiellement l'Italie, l'Espagne et la Grèce, pour faire le tri entre les candidats à l'asile qui ont des chances d'obtenir le statut de réfugié et les migrants économiques, la grande majorité des nouveaux arrivants, dit-on à l'Élysée, qui, eux, devront être renvoyés. Troisième axe, la solidarité européenne dans l'accueil. C'est sur ce versant solidaire que le bât blesse. Les 28 sont globalement d'accord pour renforcer leurs frontières et renvoyer les déboutés de l'asile, intégrer ceux qui sont là, accueillir les nouveaux arrivants, même si leur nombre est très faible. Voilà qui continue de diviser. On sait que l'Italie attend de ses partenaires qu'ils partagent avec elle l'accueil, elle qui reçoit l'immense majorité des migrants gagnant l'Europe, quand les pays d'Europe orientale se montrent rétifs à toute solidarité imposée. Comment dès lors imaginer un accord à 28? Une solution pourrait peut-être se dessiner, d'abord par des accords bilatéraux, ensuite en imaginant différentes formes de solidarité. Si le principe de la solidarité est intangible, les modalités, entend-on, peuvent se discuter. Ceux qui ne veulent pas se voir imposer de quotas de réfugiés pourraient ainsi, à la place, contribuer financièrement davantage à Frontex, à des actions de formation des gardes-côtes libyens pour qu'ils retiennent les migrants, etc. Les quatre de Visegrad, Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie, peuvent-ils être séduits? En tout cas, Emmanuel Macron a prévu de les rencontrer dès son arrivée, avant le début du Conseil.
Aux États-Unis, le Congrès a largement rejeté hier une vaste loi sur l'immigration censée mettre fin aux séparations des familles de clandestins à la frontière mexicaine. Un camouflet pour Donald Trump qui avait exhorté les élus républicains à approuver ce texte. Quant au département américain de la sécurité intérieure, il a demandé à l'armée d'accueillir dans ses infrastructures quelques 12 000 personnes pour répondre aux besoins engendrés par la politique migratoire de Donald Trump, l'arrestation notamment de migrants illégaux. En Syrie, au moins 17 civils, dont 6 enfants, ont été tués hier dans la province de Deraa, au sud du pays. L'Observatoire syrien des droits de l'homme met en cause les bombardements des avions de l'armée syrienne et de son allié russe.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu, avec une journée de mobilisation ce jeudi sur les quais et dans la rue.
FO et la CGT vont battre le pavé ensemble pour la première fois depuis 2016, dans le cadre d'un mouvement interprofessionnel afin de défendre, je cite, le modèle social et républicain de la France. On y revient dans le journal de 7h30. Ce jeudi marque également le dernier jour de la mobilisation unitaire à la SNCF après 3 mois de grève en pointillé contre la réforme ferroviaire. Un bilan bien mitigé pour les syndicats. Le gouvernement n'a pas renoncé à cette réforme qui a été promulguée d'ailleurs hier par le président Emmanuel Macron. La CGT Cheminot et Sudrail appellent à poursuivre le mouvement les 6 et 7 juillet prochains pour le premier week-end des vacances scolaires. Les deux principaux syndicats de cheminots organisés hier une soirée de soutien aux grévistes à Saint-Denis, en banlieue parisienne. Yann Gallic.
Une centaine de personnes sont réunies dans le petit théâtre de la Belle Étoile. L'espace d'une soirée, la scène s'est transformée en tribune où l'on se succède pour défendre les services publics entre deux chansons interprétées par les comédiens de la compagnie Jolimôme. Même s'ils n'ont pas réussi à faire reculer le gouvernement, les cheminots en grève, comme Mathieu Bory, n'ont pas l'intention de baisser les bras.
On est fiers d'avoir mené ce mouvement. On a imposé sur la place publique la thématique de la privatisation du ferroviaire avec toutes les conséquences que ça peut avoir. On n'est évidemment pas résignés sur l'avenir, même si, pour l'essentiel, le gouvernement est passé en force. On comprend qu'il y a une forme de lassitude d'usagers qui sont soumis à des conditions de voyage difficiles depuis 3 mois. Ça ne remet pas en cause la légitimité de notre combat.
Des élus de la France insoumise, des syndicalistes d'EDF, des étudiants sont venus soutenir les grévistes, mais aussi quelques usagers de la SNCF.
On a bien senti là avec les grévistes qu'il y avait un enjeu phénoménal de cette société que Macron veut nous faire payer. Tout va être capitalisé. Et on voit bien dans certains pays d'Europe, en Angleterre, comment ça se passe. On ne veut pas de cette société-là.
Les cheminots sont déterminés à poursuivre leur mouvement s'il le faut. Face à Emmanuel Macron, explique-t-il, nous n'avons pas encore dit notre dernier mot.
La reprise partielle de la dette de la SNCF ne sera pas sans effet sur les finances publiques. C'est ce qu'a répété hier la Cour des comptes, qui a pressé le gouvernement d'agir pour réduire le déficit, jugeant les objectifs de Bercy atteignables en 2018, mais bien fragiles au-delà. Toujours selon la Cour des comptes, la trajectoire des dépenses conjuguée au recrutement des 10 000 policiers et gendarmes prévus d'ici la fin du quinquennat pourrait contrarier l'objectif de maîtrise des dépenses de l'État fixé par le Parlement à chaque ministère. Combien coûtera cette mesure? C'est la question que posent cette fois des parlementaires et des associations de jeunesse à propos du service national universel, un service d'un mois obligatoire aux alentours de 16 ans, suivi d'un engagement sur la base du volontariat. Ce sont les grandes lignes donc du futur service national universel annoncé hier par le gouvernement, dont les modalités seront précisées à l'issue d'une consultation de la jeunesse à l'automne prochain. Un bond budgétaire pour un renouveau de la défense. Une dernière fois, l'Assemblée nationale a donné son feu vert hier, avant le Sénat aujourd'hui, à la loi de programmation militaire pour la période 2019-2025. Un budget qui ne convainc pas totalement l'opposition. L'objectif d'Emmanuel Macron est de porter les dépenses de la défense à 2% du PIB français en 2025, conformément à ce que réclame l'OTAN de la part de ses membres. De 34,2 milliards d'euros cette année, ce budget doit bénéficier d'une hausse de 1,7 milliard d'euros par an jusqu'en 2022, l'accent notamment mis sur la cybersécurité. Google, Facebook et Microsoft dans le viseur des associations de consommateurs au sujet du RGPD, le Règlement général sur la protection des données personnelles. Il protège depuis le 25 mai dernier les internautes européens des collectes d'informations trop intrusives de la part de certaines entreprises. Vous avez d'ailleurs dû recevoir quantité de courriels à ce sujet, mais selon l'UFC Que Choisir, qui reprend les accusations de ses confrères norvégiens, les trois géants américains contournent le RGPD. L'UFC Que Choisir qui a décidé d'interpeller la CNIL. Éric Chavroux.
Facebook, Google et Microsoft manipulent les utilisateurs malgré le RGPD. C'est le Conseil norvégien des consommateurs qui a lancé l'accusation hier. Son étude a été menée entre mi-avril et début juin. Et cette agence gouvernementale souligne que les réglages les plus favorables à la confidentialité nécessitent davantage de clics et sont souvent cachés. Pour Google, l'utilisateur doit ainsi se rendre dans son compte pour désactiver la personnalisation des publicités et le partage des applications utilisées. Le Conseil norvégien des consommateurs se réjouit toutefois que l'historique des positions de l'utilisateur et ses activités vocales et audio soient désactivées par défaut. Autre critique, notamment la présentation biaisée de certains services. La reconnaissance faciale est ainsi vantée par Facebook pour se protéger d'inconnus qui utiliseraient votre photo. Mais le réseau social ne parle pas de ses talents à détecter les expressions du visage et les émotions pour permettre d'afficher des publicités ciblées. Pour l'agence norvégienne, nous sommes loin des exigences de clarté et de simplicité du nouveau règlement européen. L'UFC Que Choisir a repris ses accusations et l'association française en appelle à la CNIL, la Commission informatique et liberté, qui nous a dit ne pas avoir, pour le moment, suffisamment d'éléments pour répondre à ces questions.
Les cercueils de Simone Veil et de son époux Antoine seront exposés dans la crypte du Mémorial de la Shoah à Paris vendredi et samedi, avant le transfert au Panthéon des cendres du couple ce dimanche. C'est ce qu'a annoncé hier ce lieu de mémoire du génocide des Juifs. De 10h à 18h, le public pourra rendre un dernier hommage à la survivante des camps d'extermination nazis, morte le 30 juin 2017, ainsi qu'à son époux. La ministre qui a laissé également en 1975 son nom à la loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse, ancienne présidente du Parlement européen, Simone Veil a été membre fondateur de ce mémorial, puis présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.